Europe 1.
L'esprit est le contraire de l'argent.
Tous les jours sur Europe 1.
Moins on en a, plus on est satisfait. Voltaire.
Historiquement vôtre.
Après tout, c'est tant mieux.
Et Van Gogh, c'est pas une famille d'artistes.
The successor to the kings and queens of history.
Là, Seigneur Colomb, c'est là précisément que nos opinions divergent.
Stéphane Bern.
Bonjour à toutes et à tous. Clémentine, Jean-Luc,
bonjour.
David, bonjour à vous.
Bonjour,
bonjour
Stéphane.
Et celui qui est aussi avec nous aujourd'hui, notre médecin légiste de l'histoire. Bonjour Philippe Charlier.
Bonjour Stéphane.
Je suis ravi de vous retrouver comme chaque après-midi sur Europe 1 pour vous raconter l'histoire sans se la raconter. En compagnie de trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, qui ne vivaient pas à la même époque, mais qui ont un point commun. Aujourd'hui...
Toi, tu me comprends. Si bien.
Mais oui, je te comprends, ma Lucienne. Mais eux, en revanche, ils sont complètement incompris. C'est le thème d'Historiquement Vôtre cet après-midi. À commencer par un compositeur de génie qui a surtout dû composer avec la critique qui ne l'a pas épargné et un public qui a fui ce qui devait être son plus grand projet et qui a fini, hélas, par l'achever, l'opéra Carmen de Georges Bizet, devenu pourtant depuis un immense succès qui ne s'est jamais démenti. Puis après Carmen, Lolita, l'héroïne du roman éponyme de Vladimir Nabokov, une victime d'un prédateur sexuel qui lui a valu d'être incompris puisque beaucoup ont pensé que l'auteur russe, qui voulait la dénoncer, faisait l'apologie de la pédocriminalité. Et après les morts, le vivant. C'est vous, Jean-Luc Lemoine, qui dresserez vers 17h30 hein, le portrait de notre troisième personnage du jour, un footballeur incompris lui aussi.
Oui, Nicolas Anelka, l'incompris. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est lui. Ou plutôt le documentaire de Netflix consacré à ce joueur qui a enchaîné les succès autant que les polémiques jusqu'à l'affaire du bus de Nysna pendant la Coupe du Monde 2010. Vous vous souvenez, Stéphane?
Oui, oui. Et les joueurs n'avaient pas voulu descendre du bus.
Eh ben, c'était plus ou moins à cause de Nicolas Anelka. En tout cas, c'était une réaction à son éviction d'équipe de France. Vous verrez tout à l'heure.
Alors, eux, à l'inverse, tout le monde les encense. Et c'est mérité. D'abord, celle qui nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde, Clémentine Portier-Kaltenbach. De qui nous parlez-vous, Clémentine?
Je vais vous parler de l'abbé de l'épée, un bienfaiteur de l'humanité, qui au XVIIIe siècle, en perfectionnant le langage des signes, a permis enfin aux sourds de se faire comprendre. Donc voilà, enfin, ils ont été compris. J'ai pris le contre-pied de votre sujet.
Toujours, prenez toujours le contre-pied.
Cette incompréhension, ça me chagrinait.
Oui. Alors lui remonte aux origines d'un objet, d'une mode, d'une passion, voire d'une obsession, souvent la sienne, c'est
oui,
David Castel-Lopez.
C'est une obsession très partagée aujourd'hui, c'est celle du café.
Oui.
D'où vient le café? D'où vient...
Il vient de partout.
Il vient de plein d'endroits. Je vais raconter un petit détail. L'histoire du café.
Très bien.
Ouais.
Vous en buvez
peut-être. On me sent un petit peu molesse. D'ailleurs, j'en ai un ici. Regarde.
Voilà. Non, mais l'après-midi, c'est très mauvais à 16h. À partir de 16h, je crois qu'il faut arrêter de boire du café.
Ce n'est mauvais que pour le sommeil. Sinon, c'est bon
pour le cœur.
Voilà, exact.
Les origines, c'est dans toute fin d'émission et juste avant, comme dirait l'autre.
Mes aïeux, quelle époque! Mes aïeux, quelle époque!
Ah, mes aïeux, quelle époque! Ça s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, on parle médecine avec vous, Philippe Charlier.
Et oui, Stéphane, vous êtes peut-être demandé quand on est presbyte, comment on fait pour soigner cette maladie un petit peu difficile au quotidien, mais vous allez voir qu'on a besoin d'une paire.
De lunettes.
Oui, de lunettes.
Que vous verrez... C'est très bizarre dit comme ça.
Vous verrez d'où vient cette paire et comment on en est amené à avoir deux verres au lieu d'un seul.
Mes aïeux, quelle époque, ce sera tout à l'heure vers 17h40 et dans trois quarts d'heure, on n'y échappera pas. C'est le quiz historique, enfin qui n'a d'historique que le nom.
Oui, enfin, s'il vous plaît, ce qui serait historique, c'est que vous gagniez Stéphane dans ce duel où vous êtes opposé.
Oui.
Oh, rarement.
Faites les comptes.
Il faut dire la vérité.
Non. Ouais.
Donc vous serez opposé une nouvelle fois à Clémentine Portier-Kaltenbach. Je sens qu'aujourd'hui la bataille va être sanglante. Bon, un peu comme tous les jours.
Oui. Je vous confirme, en tout cas avant les effusions de sang, restez avec nous, je vous raconte notre premier personnage du jour.
Europe 1.
Historiquement vôtre.
Le récit. Stéphane Bern.
Il est aujourd'hui l'un des plus grands noms de la musique classique et son opéra demeure le plus joué du répertoire français. Pourtant, à l'époque, beaucoup sont passés à côté de son talent. Je vous raconte maintenant un compositeur incompris qui n'a jamais su qu'il entrerait dans la postérité, Georges Bizet. C'est soir de première, ce 3 mars 1875, dans la grande salle de l'Opéra Comique à Paris. Des politiques, des journalistes, quelques grands compositeurs de l'époque et une foule de bourgeois sont venus se divertir dans ce lieu qui est alors le rendez-vous de la bonne société. Le spectacle va commencer. Le public se tait et le rideau se lève au son d'une fougueuse ouverture. Sur scène, le décor évoque l'Espagne. Autour d'une place se font face une caserne et une manufacture de tabac d'où ne vont pas tarder à sortir les ouvrières. Mais les soldats en attendent une en particulier, celle qui donne son nom à l'opéra joué ce soir-là, Carmen. Il faut attendre la quatrième scène pour qu'elle apparaisse enfin, et le ton est vite donné lorsqu'elle entame son premier air. L'amour est un oiseau rebelle que rien ne peut apprivoiser, etc. Comme le personnage d'ailleurs. Carmen est une bohémienne, une femme libre, elle aime qui elle veut, quand elle veut, ne chérit rien d'autre que son insoumission. Ce qui apparaît à l'auditeur contemporain comme un ton volontiers badin est un peu osé pour l'époque. Mais le public, dont les bonnes mœurs sont adoucies par la musique, fait pour l'instant bonne figure. Toutefois, au fur et à mesure, le comportement de l'héroïne devient un tantinet gênant pour les bourgeois endimanchés. Carmen minaude, séduit, offre son amour à un militaire qui n'hésite pas à devenir brigand pour lui plaire, puis elle ne l'aime plus, en préfère un autre, elle est joueuse, effrontée, lascive, en un mot, elle est scandaleuse. C'en est trop pour certains qui commencent à s'en aller en faisant claquer leur siège. Pour ceux qui restent, les chants approximatifs du chœur n'aident pas à apprécier la musique et les interminables changements de décor sont autant de bonnes occasions pour quitter la salle. Quand le rideau se rouvre pour le dernier acte, c'est devant un public clairsemé, désintéressé, voire glacial que Carmen finit par mourir sous les coups de poignard de son premier amant et conduit. L'opéra est terminé. Silence. Pas de bravo, pas de rappel. Rideau. En coulisses, le compositeur est dépité. Voilà 2 ans qu'il travaille à ce qui aurait dû être son chef-d'œuvre. Mais Georges Bizet voit ce soir-là ses rêves de gloire se briser face à l'incompréhension du public, en partie scandalisé de l'affront à la morale dont il a été le témoin. Les jours qui suivent, une partie de la presse en rajoute, dénonçant, je cite, « des personnages dégradés et avilis » ou encore « un spectacle infâme ». Et que dire du journaliste qui, dans la revue Le Siècle, affirme « il faudrait pour le bon ordre social bâillonner la demoiselle et mettre un terme à ses coups de hanche effrénés en l'enfermant dans une camisole de force après l'avoir rafraîchi d'un pot à eau versé sur sa tête ». D'autres critiques louent la fraîcheur, le réalisme des sentiments ou la force musicale, mais leur voix porte peu. Le pauvre compositeur s'est retranché dans sa maison de campagne, à quelques encablures de Paris, tombé malade d'avoir traîné son désespoir dans les rues froides et humides après la première, déçu de sa vie d'artiste qui avait pourtant commencé sous de bons auspices. Né en 1838 à Paris dans une famille de musiciens, Georges Bizet se révèle vite doué, très doué même, à tel point qu'il entre au conservatoire à 9 ans avant l'âge réglementaire. Il excelle au piano, à l'orgue, en harmonie, tout lui sourit. À 19 ans, il compose la cantate Clovis et Clotilde, grâce à laquelle il remporte le prestigieux prix de Rome qui lui permet de passer 3 ans en résidence dans la capitale italienne à jouir de sa liberté d'artiste. De retour à Paris, son opéra Les Pêcheurs de Perles est donné au Théâtre Lyrique. D'aucuns, dont un certain Hector Berlioz, notent les qualités musicales, mais la pièce ne dépasse pas la 18e représentation, bon, ce qui n'est pas si mal pour un jeune compositeur. En attendant le succès, Bizet passe beaucoup de temps à donner des leçons de piano et transcrire des œuvres à la mode pour des éditeurs de partitions afin de gagner sa vie. D'autant plus qu'après s'être mis en ménage en 1869 avec Geneviève à Lévis, fille d'un ancien professeur et grand compositeur d'opéra. Mais à la scène, Bizet enchaîne les déconvenues. Un autre opéra ne remporte pas de succès et ses pièces pour piano, malgré une grande profondeur comme dans ses variations chromatiques, ne suffisent pas à sa gloire. Le public ne le comprend pas, pas plus que son épouse avec qui le mariage n'est pas très heureux. Mais la vie de Bizet s'égaye quand l'opéra comique, pour qui il a déjà composé avec peu de succès, lui passe commande d'une nouvelle œuvre. S'il ne s'y joue pas que des pièces burlesques, elles doivent tout de même être un peu légères pour plaire au public bourgeois. Mais il faut surtout que cela se termine bien. Or, Bizet préfère le drame. Notamment celui d'une nouvelle de Prosper Mérimée, Paris, en 1847, évoquant le personnage de Carmen, une gitane qui vit sa liberté d'aimer jusqu'à en mourir. C'est décidé, Bizet va adapter l'histoire dans un opéra. Mais le directeur n'en veut pas. La mort à l'opéra comique, s'égosille-t-il, ça ne s'est jamais vu, jamais. Ne la faites pas mourir, je vous en prie. Mais Bizet voit en cette fin tragique la vraie force de l'histoire. 2 librettistes en vue, censés assurer le succès, édulcorent le propos. Le compositeur reformule le texte et travaille sans cesse pour écrire plus de 1200 pages de partition. Le directeur de l'opéra persiste à lui mettre la pression. Bizet, lui, croit en son travail et espère que le public le comprendra. Mais ça ne sera pas le cas. La déception de la première est d'autant plus amère pour Bizet qu'il y a mis toute son énergie. Encore plus après avoir engagé la mezzo-soprano Célestine Galimarié pour le rôle. Elle chante divinement et affiche un fort caractère qui n'est pas pour déplaire au compositeur qui voit en elle une véritable incarnation de Carmen. Comme son héroïne, Célestine est une femme libre qui vit et agit comme elle l'entend. Le musicien semble ébahi par son interprète qui devient sa muse, et même plus, selon la rumeur publique. Muse ou amante, elle, en tout cas, le comprend et apprécie son talent, même si elle exige d'innombrables réécritures du fameux air par lequel elle entrera sur scène. Bizet s'y remet à 13 fois avant que la chanteuse ne soit enfin satisfaite. Les répétitions ont commencé en septembre 1874 et elles sont pénibles. Le directeur de l'opéra ne cesse de prêcher pour une version plus convenable. L'orchestre trouve parfois la partition trop compliquée. Les chanteurs du chœur ne comprennent pas la liberté de mouvement que le compositeur exige d'eux. C'est un calvaire. Et après le cuisant échec, Bizet, profondément déprimé et malade, se retire dans sa maison de campagne. Pendant ce temps-là, à Paris, Carmen est jouée à nouveau. Tous les trois jours, de 20h à minuit, Célestine Galimarié continue de chanter et Carmen de mourir d'aimer. Les représentations ne sont pas toutes des succès, mais pas toutes des échecs. Peut-être, enfin, la reconnaissance va-t-elle arriver ? Le soir de la 33e représentation, la cantatrice est prise d'un malaise au moment où son personnage tire une carte annonçant la mort. Hasard ou prémonition, c'est cette même soirée du 2 juin 1875 que Georges Bizet, malade depuis 3 mois, meurt à seulement 36 ans après qu'une baignade dans les eaux de la Seine ait fait empirer son état. Bizet décédé, l'opéra est encore joué, mais la 48e représentation sonne le glas. Déprogrammée, l'œuvre est vouée à l'oubli. Pourtant, quelques mois plus tard, en octobre 1875, l'opéra de Vienne fait jouer Carmen et c'est un triomphe. Brahms lui-même assiste à toutes les représentations. Puis ce sera Berlin en 1880, Londres en 1882, New York en 1885, Milan l'année suivante. Carmen revient même sur la scène de l'opéra comique et sera aussi donnée au prestigieux Palais Garnier en 1907. Un autre compositeur, Piotr Ilitch Tchaïkovski, avait écrit dans une lettre en 1880 « Carmen sera l'opéra le plus populaire du monde ». Et Carmen est de nos jours encore l'opéra français le plus joué. Tchaïkovski en voilà un au moins qui avait tout compris.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Georges Bizet avec Clémentine Portier-Kaltenbach, nous avons le plaisir d'accueillir un auteur qui le connaît bien. Bonjour Jean Rousselot.
Bonjour Stéphane Bern.
Jean Rousselot, vous êtes réalisateur de documentaires et vous avez récemment publié « Georges et Carmen », votre premier roman sur l'histoire du compositeur et la genèse de cette œuvre incontournable aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a séduit dans l'histoire de ce compositeur incompris ?
Le fait que, effectivement, comme vous avez dit, j'ai fait des documentaires et quand j'avais fini de faire celui-là, sur Bizet et sur sa maison de Bougival, où il a créé Carmen et là où il est mort, j'ai continué à me dire, c'est incroyable, cette histoire fait partie de notre patrimoine et finalement elle est peu connue. Le fait qu'il soit mort à 36 ans, sans savoir que Carmen allait être un échec. Et pour moi, l'autre chose fascinante, c'est le fait qu'il ne s'écoule que 4 mois avant que ça devienne ce triomphe qu'il attend. Tellement. Pour moi, ça, c'est très émouvant.
C'est émouvant, une injustice de la vie, oui. Flagrante. Oui. Votre livre est écrit à la première personne et Georges Bizet est le narrateur principal. C'est important de rentrer dans sa tête, si on peut dire, pour comprendre ce que beaucoup n'ont pas compris de lui.
Oui, je dirais, je suis d'accord. Et puis surtout, pour moi, quand l'histoire de Bizet m'a semblé universelle à tous les créateurs. C'est pour ça que j'ai raconté la première personne. Elle a résonné en moi comme elle a résonné en beaucoup de gens en disant « comment on fait ?» quand on se retrouve face à des gens qui vous demandent de faire des choses auxquelles vous ne croyez pas. Et c'est ce que Bizet, pour moi, a fait jusqu'à Carmen. Et quand il fait Carmen, pour la première fois de sa vie, il fait l'œuvre qu'il a vraiment dans l'esprit. Et donc, c'est pour ça qu'en me mettant en sa tête, je me suis dit, on peut raconter, en tout cas, tous les créateurs qui travaillent de façon collective. Je parle pas des peintres, mais je parle de, voilà, un musicien, un réalisateur. Quand on travaille en commun, effectivement, parfois, on fait des compromis. Et il en a fait trop, à mon avis, qu'il regrettait jusqu'au moment où Carmen... Je pense que c'est aussi pour ça que... Finalement, il se remet pas de la première de Carmen. Parce que pour la première fois, il fait vraiment l'œuvre qu'il a dans les tripes.
Oui, on dirait qu'en somme, la Carmen de la nouvelle de Prosper Mérimée lui a littéralement tapé dans l'œil. Est-ce qu'elle l'attendait lui et pourquoi? Et pourquoi tout d'un coup, c'est cette rencontre entre lui et cette Carmen là qui va produire ce chef-d'œuvre?
Oui, d'abord, je trouve assez mystérieux parce que, comme je le raconte dans le livre, moi, le souvenir que j'avais dû le lire en cinquième, le Carmen de Mérimée. Je me disais, bon, c'est finalement une œuvre assez moralisatrice qui dit, méfiez-vous de vos sens, tout ça va mal se terminer. Et le fait que, pour moi, c'est assez mystérieux que Bizet ait choisi cette œuvre-là. Mais je trouve que la Carmen de Bizet est beaucoup plus intéressante parce que finalement, elle est beaucoup plus sensible, beaucoup plus fine. Mais c'est cette rencontre-là, je crois qu'il y a cette liberté chez cette femme, chez cet homme qui, à mon avis, était libre, avait une vie plutôt libre jusqu'au moment où il se marie avec Geneviève, la fille de son professeur de chant tant aimé. Et je pense qu'il est devenu un homme de devoir. Et il fait son devoir tout le temps, et que tout d'un coup, Carmen ne fait pas son devoir, et c'est ça qui lui plaît tant.
Jean Rousseau, j'ai expliqué dans le récit le bras de fer entre le directeur de l'Opéra Comique et Georges Bizet sur la fin de l'opéra, qui doit être légère pour l'un, dramatique pour l'autre. Pourtant, vous dites dans votre livre que Carmen a été créée à l'Opéra Comique, qui n'a de comique que le nom. Alors, pourquoi ça gêne tant le directeur de l'Opéra Comique d'avoir une fin dramatique pour cet opéra?
Alors d'abord, effectivement, l'Opéra Comique est un endroit où on organise des mariages pour la bonne société, et donc on a presque l'impression que ce qui se joue sur la scène de l'opéra est presque un arrière-plan plus que le centre de l'attention, et donc on veut un propos qui va bien avec la fonction sociale du lieu. Mais ce qui est pour moi assez fascinant, c'est que donc Bizet, quand il est tellement heureux enfin de pouvoir faire Carmen, on lui dit il faut effectivement que ça se termine bien. En fait, en gros, on veut une comédie. C'est ça qui fait que c'est si difficile pour Bizet et en même temps si important pour l'Opéra Comique d'avoir gain de cause, parce que l'Opéra Comique veut continuer sa fonction et Bizet, lui, veut faire enfin une Carmen fidèle à elle-même.
Qu'est-ce qui vraiment achoppe? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui fait que c'est compliqué, en effet, pour chanteur et chœur? Parce que maintenant, on a l'impression que tout ça se passe de façon très fluide. Quelle était la nouveauté, la surprise dans cette œuvre même qui a rendu ça compliqué pour les artistes?
Je pense qu'évidemment, ce qui choque, c'est le propos. C'est-à-dire que c'est cette femme libre de son corps, libre de ses désirs, à un moment où on ne veut pas voir ça sur scène, puisque effectivement, si c'est Don Giovanni, si c'est un homme, il n'y a aucun problème. Il y avait d'autres femmes qui n'étaient que des courtisanes, mais elle est libre, c'est-à-dire qu'elle fait ce qu'elle veut. Et c'est ça qui, je pense, choque profondément. Et
dans le même temps, prenons le personnage de Carmen. C'est vrai qu'elle est libre, elle est sensuelle, elle est lascive, mais on a Traviata dans le même temps.
Oui.
Au fond, elles sont des femmes de cette époque, des demi-mondaines, des courtisanes, voilà. Enfin toute la bonne société, tous ces messieurs qui sont là au premier rang et qui regardent Carmen, ils savent qu'ils ont une maîtresse qui les attend quelque part.
Oui.
C'est parce qu'ils sont à côté de leur épouse que tout d'un coup ça les choque.
Il y a peut-être de ça, mais je crois que Carmen n'est pas une demi-mondaine. Carmen est une femme libre, elle aime qui elle veut, il n'y a pas d'histoire d'argent. Oui. En fait, elle est totalement libre, mais pour moi, je vois une correspondance dans le fait que Bizet a voulu mettre une vie sur scène qui existait finalement peu à l'opéra, où j'ai l'impression que c'était un milieu un peu plus strict, et du coup, et ce qui a choqué, c'est aussi que Célestine Gallimard, la chanteuse, dansait avec une sensualité aussi qu'on n'avait pas vue.
Oui, alors que les cantatrices jusqu'alors, elles étaient comme un poteau.
Voilà, exactement. Et je pense que c'est ça qui a surpris, qui a choqué, et c'est ça qui a gêné au moment de la fabrication. Bizet se sentait incompris en voulant faire quelque chose de beaucoup plus vivant à l'opéra, je pense, que ce qu'on avait vu jusque-là.
Et en même temps, justement, vous parliez de cette cantatrice, Célestine Gallimard. Est-ce que vous pensez, alors là, c'est un petit peu de Bizet sur le divan, mais est-ce que de son mariage un peu malheureux est née aussi peut-être cette passion avec Carmen et avec ce personnage et avec sa chanteuse, Célestine Gallimard? Il est peut-être là, il y avait une frustration et une histoire d'amour derrière.
On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, il y a des gens qui disent qu'il y a une histoire. Moi, je suis convaincu qu'il y a une histoire avec Célestine Gallimard. D'abord, je pense que Georges Bizet voit en Célestine cette femme libre, cette femme qui a fort caractère. Je pense qu'il voit Carmen. Et donc, je pense que le fait qu'elle ait envie de chanter avec lui, parce qu'au départ, toutes les cantatrices refusent de jouer Carmen. C'est un personnage qui n'est pas digne, c'est un personnage qu'elles ont honte de jouer. Or, Célestine veut jouer Carmen. Célestine, elle veut être dans la musique de Bizet. Tout d'un coup, elle vient pour lui et elle veut le jouer. Mais avec ce caractère fort, comme vous avez dit, qui lui fait demander à Bizet de reprendre 13 fois l'air d'entrée jusqu'à ce que ça devienne la Habanera. Donc je pense, pour moi, là, il a pu, avec Célestine, faire enfin l'œuvre qu'il voulait. C'est presque une création à deux.
Justement, il y a une telle osmose entre les deux. Le soir de la 33e représentation de Carmen, vous racontez que la cantatrice a une vision de la mort de Georges Bizet, raison pour laquelle elle s'évanouit sur scène. Après l'opéra, elle fonce dans un fiacre et explique au cocher que ce soir, un homme merveilleux est mort. Il s'appelait Georges Bizet et c'est Carmen qui l'a tué. Selon vous, il est mort donc d'être incompris?
Je pense que oui, je pense que le rejet si fort de Carmen, dont vous avez lu des extraits dans la presse, qui était vraiment très très dur, je pense qu'il s'est dit qu'il était, il aurait du mal à en supporter davantage. Et donc effectivement, pour moi, il somatise, comme on dirait aujourd'hui, il tombe malade la nuit de la première. Et effectivement, il est incapable de se relever, il est incapable d'aller à la deuxième de Carmen. Et donc je pense que Célestine dit que Carmen l'a tué. Je ne sais pas si Carmen l'a tué, mais je pense que le rejet de Carmen était trop pour lui. Alors que finalement, comme vous l'avez dit, il a suffi de 4 mois après la première de Carmen pour que ça devienne ce triomphe merveilleux.
Aujourd'hui, Carmen est l'opéra le plus joué au monde et les salles de spectacle qu'il propose à l'affiche sont toujours complets. En témoigne le succès encore actuellement à l'Opéra Bastille. Comment on explique un tel retournement de situation?
Je ne saurais pas expliquer le retournement de situation. Après, je peux expliquer ce que moi, comme auditeur du 21e siècle, quand j'écoute Carmen, je suis fasciné à quel point les mélodies sont extraordinaires et les orchestrations aussi. Et je trouve que ce mélange-là fait que, par rapport à d'autres opéras, quand je l'écoute, j'ai l'impression que ça n'a pas vieilli. Ça, et le personnage de Carmen, je crois aussi qu'il joue, parce que finalement, à un moment, je m'étais même posé la question avec des lycéens de se dire, ok, il y a 150 ans, il y a une œuvre sur une femme qui meurt sur scène, qui meurt parce que elle a été fidèle à ses sentiments, elle a été fidèle à ses désirs. Est-ce que les choses ont tellement évolué aujourd'hui? Je suis pas sûr. On a toujours énormément de violences faites aux femmes. Je pense que ce propos-là est toujours aussi actuel et cette musique n'a pas vieilli. Je crois que c'est la rencontre des deux.
Pour terminer, Jean Rousseau, est-ce qu'il y a un morceau de Carmen qui vous touche particulièrement?
Ben moi, c'est la Habanera chantée par Teresa Berganza, qui est décédée l'an dernier, qui me touchait, qui avait, je trouve, qui faisait une Carmen absolument merveilleuse. Et donc, alors j'aime tout Carmen, mais ce morceau-là, à chaque fois que je l'écoute, je suis toujours aussi heureux.
Merci beaucoup Jean Rousseau d'être venu avec nous sur ce génie incompris de la musique qui nous a laissé une œuvre incontournable du répertoire classique, le plus célèbre opéra du monde. Je rappelle le roman que vous lui consacrez, Georges et Carmen, c'est aux éditions Phébus et je signale à nos auditeurs qui voudraient voir Carmen sur scène qu'en plus d'afficher complet actuellement à l'Opéra Bastille, l'opéra reviendra sur la scène qu'il a vue naître, celle de l'opéra comique, pour le 6 représentations exceptionnelles entre le 24 avril et le 4 mai prochain. Ça, c'est la revanche de l'histoire.
Merci beaucoup.
Merci.
Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter, avec Jean-Luc Lemoyne, qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre.
Exactement, et aujourd'hui...
Un indice sonore.
Oui,
un indice sonore.
Je ne sais pas si vous serez aussi enthousiaste tout à l'heure, parce qu'une fois que vous allez écouter cet indice, vous l'aurez en tête toute la journée. Vous voulez l'entendre?
Allez-y.
Allez, on y va.
Oula.
Alors, on a envie de danser ou pas?
Alors, j'avais jamais entendu ça.
Moi non plus. Honnêtement, j'ai cherché.
Et du coup, j'ai pas compris de
qu'est-ce
quel
qu'ils
indice.
Disent, Fort Boyard?
Non, non, ils parlent de fondu savoyard.
Ah, fondu savoyard,
fondu montagnard. Bon, la vérité, c'est, je vais vous poser une question sur la fondue bourguignonne, mais j'ai pas trouvé de chanson qui parlait de fondue bourguignonne.
D'accord. Mais avant cet affrontement, je lui laisse la parole. Clémentine Portier-Kellenbach nous raconte des histoires dont elle seule a le secret.
Dans l'intimité de l'histoire.
Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez donc un abbé qui a tout compris et surtout permis aux sourds-muets de se faire entendre et donc comprendre aussi. L'abbé de l'Épée.
Ah oui, c'est un personnage bien intéressant, cet abbé de l'Épée. Il était né à Versailles en 1712, dans une famille aisée. Son père était architecte du roi. Et c'est un polymathe, c'est un jeune homme extrêmement doué. Il s'intéresse au droit, à la philo, aux langues mortes naturellement, et bien sûr aux langues vivantes, parce que son époque est quand même moins fréquente. Il apprend espagnol, italien, anglais, allemand, faut le faire quand même. Hein. Et il a la vocation, il aimerait bien rentrer dans les ordres, mais à l'époque, on est en plein dans la querelle avec les gens, entre les jansénistes et les jésuites, et comme il a des sympathies jansénistes, il va être privé de paroisse à Paris et à Versailles. Donc, il sera pas tellement curé de paroisse, il aura pas vraiment l'occasion, mais son expérience dans la pédagogie commence par l'enseignement de la religion. Et ce qui va littéralement bouleverser la vie de cet homme, c'est un jour, en 1760, alors qu'il est déjà un homme mûr, il a 48 ans, eh bien, il rencontre deux sœurs jumelles qui sont sourdes et muettes, et ça va littéralement bouleverser sa vie. Ce sont deux jumelles dont la mère était veuve, qui vivaient dans une extrême pauvreté, et on ne renonçait pas à essayer d'enseigner les choses de la religion aux sourds-muets. Donc, il y avait un brave curé qui s'appelait le père Vanin, qui essayait de leur enseigner la religion et la Bible en leur montrant des images saintes à ces deux jeunes sourdes. Et puis, le père Vanin disparaît. Alors, l'abbé de l'Épée est envoyé voir ces deux jeunes jumelles sourdes, et ben, moi, je vais m'en occuper. Alors, j'ai découvert avec une émotion intense, en préparant cette chronique, que ces deux jumelles habitaient ma rue. Ah, ça m'a beaucoup touché. Je suis pas loin, d'ailleurs, de l'Institut des jeunes sourds fondé à la suite de la mort de l'abbé de l'Épée. Alors, si vous voulez, avant l'abbé de l'Épée, comment on communique les sourds-muets? Quand on veut essayer de leur apprendre à communiquer, on va surtout mettre l'accent sur la parole, on va essayer de les faire parler par mimétisme, et puis il y a un embryon de langage des signes qui existe, et l'abbé de l'Épée qui va venir l'améliorer en calquant. Alors là, c'est peut-être une des choses qu'on lui a reproché au début, il va calquer le langage des sourds sur le langage parlé. Or, avec le temps, le langage des signes est devenu tout le contraire de ça. Il se calque pas du tout sur la langue parlée. Mais sa contribution majeure, surtout, ça va être de créer une école. Parce que jusqu'à présent, seuls des gens à l'aise financièrement pouvaient avoir un précepteur pour un enfant sourd. Et le fait de regrouper tous les enfants sourds ensemble, ça va les obliger à homogénéiser en somme leur langage, à faire une sorte de langage commun. Et quand vous avez envie de communiquer, que vous êtes entouré de gens comme vous, vous êtes motivé à le faire. Ça va les aider à sortir de leur isolement. Et en plus, en créant cet enseignement, ben, il y a des jeunes sourds qui vont apprendre avec l'abbé de l'Épée et qui ensuite vont devenir enseignants dans toute la France. Comme l'abbé de l'Épée a une fortune personnelle, eh bien, il peut se permettre de créer son école dans sa maison et il va avoir dans sa maison jusqu'à 72 élèves. Et la particularité de son école, c'est qu'elle est réservée aux plus pauvres. Il l'expliquait lui-même, autrefois, les parents se croyait pour ainsi dire déshonoré d'avoir un enfant sourd et muet. On pensait avoir rempli toute justice à son égard en pourvoyant à la nourriture et à son entretien, mais en le soustrayant pour toujours aux yeux du monde, en le confinant ou dans le secret d'un cloître ou dans l'obscurité de quelques pensions inconnues. Dans les familles pauvres ou à la mort du père, la situation se dégradait et transformait le sourd muet en vagabond. Il va surtout avoir l'idée d'organiser des démonstrations publiques de ce langage des signes. Et très vite, l'efficacité de sa méthode est connue et le roi lui-même en 1778 le reconnaît comme un bienfaiteur de l'humanité. Dans l'Europe entière, on parle de la méthode française parce que c'est tout un ensemble humain de jeunes gens sourds et muets qui ne pouvaient pas communiquer qui grâce à lui vont pouvoir le faire. Et donc 2 ans après la mort de l'abbé de l'Épée, il disparaît en 1789, voit le jour le premier établissement public gratuit pour sourds muets. 120 élèves s'y installent le 1er avril 1794, vous voyez, c'est rue Saint-Jacques, dans le quartier latin. Et on les fait travailler parce qu'il faut bien sûr qu'ils puissent apporter un peu de quelques piécettes pour aider à leur subsistance. Alors, à un moment, ils ont cohabité avec les aveugles de Valentin VIII, et les aveugles, eux, étaient spécialisés dans le rempaillage et dans l'accordage des pianos. Ça s'est resté souvent vrai. Souvent, il y a des accordeurs de pianos aveugles. Et les sourds, eux, étaient spécialisés dans l'imprimerie. Pendant la Révolution, ils vont imprimer des assignats. Si vous passez rue de l'Abbé de l'Épée, c'est près du Luxembourg, là, vers le petit Luxembourg. Et pour se recueillir sur la tombe de l'Abbé de l'Épée, qui est vraiment un très grand homme, c'est à Saint-Roch que ça se passe. Et sur son cénotaphe figure la liste des lettres de l'alphabet en langue des signes.
Bravo, merci beaucoup Clémentine. Bon, maintenant c'est le moment de l'émission, vous le savez chers auditeurs, je ne contrôle plus rien. C'est Jean-Luc qui prend la main pour le quiz Born to be Alive.
Oh, je crois que le monde entier a bien compris le principe, sauf vous Stéphane. Alors je le rappelle, des questions plus ou moins farfelues, mais toujours historiques, des réponses plus ou moins bonnes, mais toujours données avec candeur. C'est parti pour le quiz. Allez, on va commencer avec une question pour vous, comme chaque jour, Stéphane. Maintenant que c'est loin, on peut le dire, les chansons de Noël, ça craint. Hein, vous aimez vraiment les chansons de Noël?
Oui, je suis allée à tout un concert de chansons de Noël à Saint-Sulpice et j'ai envoyé à Stéphane, petit papa Noël.
Oui. Et vous l'avez bien pris.
Oui, parce que j'aime beaucoup Tino Rossi.
Tino Rossi, oui, d'accord. Là, je vais vous parler d'autres chansons. Noël Blanc, White Christmas, oui. Et Jingle Bells, Vive le Vent. Les deux chansons ont été adaptées en français par Francis Blanche.
Oui,
bien sûr, c'est connu. Oh,
ou juste aucune oui. des deux.
Ah. Est-ce que les deux
ouais. Juste une ou aucune des deux.
The Jingle Bells, ça c'est sûr. Et on l'autre, l'a White ici. Christmas. Oh, c'est un...
Alors, est-ce qu'il a adapté les deux ou juste une des deux?
Je dirais une des deux.
Moi, je dirais pareil.
Une des deux.
Une des deux
vive
seulement
le vent,
d'accord.
Le vent.
On vérifie tout de suite.
Vous savez...
Oh non.
Perdu. Oh, perdu. Marrant. Il a adapté les deux.
Oh non.
Si. Moi, j'étais au courant pour Noël Blanc. Vous, c'était plutôt Vive le Vent.
Ouais.
Et chose amusante, parfois la traduction diffère. Alors que Francis Blanche parle dans « Vive le vent » de l'esprit joyeux de Noël, dans « Jingle Bells » en anglais, il est dit « Maintenant que le sol est blanc, allez-y pendant que vous êtes jeune, emmenez les filles et chantez cette chanson de traîneau. » Traduit mot à mot, ça donne un truc un peu chelou.
Oui, voilà. C'est bizarre.
Donc c'était la version de Francis Blanche.
Oh, j'ai perdu un point bêtement.
Oh, vous en faites pas. Clémentine peut en perdre un aussi bêtement.
Non, parce qu'elle est...
Moi, si je le perds, ce sera intelligemment.
Oh.
À la suite d'un raisonnement tortueux qui mènera vers l'erreur.
Mais quelle arrogante celle-là. Alors Clémentine, aux États-Unis, il y a depuis 1933 un proverbe très connu qui dit « On n'a rien fait de mieux depuis ». Mais depuis quoi? C'est depuis quelque chose. Le grille-pain, la trancheuse à pain ou le pain perdu?
C'est marrant, moi j'aurais dit on n'a rien fait mieux depuis l'invention de la roue, il me semble que c'est ça, non, en français. Donc là, le grille-pain, la trancheuse à pain ou le pain perdu?
Voilà, ça se dit depuis 1933 aux États-Unis.
Je dirais le pain perdu.
Le pain perdu, de toute façon, donc aucun regret, on n'a rien fait de mieux depuis le pain perdu, ça de 1933, et c'est une bonne réponse de Clémentine, on la vérifie quand même.
Vous savez...
Perdu.
Je vous avais dit, elle peut perdre un point bêtement, hein.
Mais vous êtes sadique. Pourquoi est-ce que vous me dites que j'ai une bonne réponse, j'ai bien répondu?
Parce que j'ai l'impression que ça vous a donné de la joie quand je l'ai dit. Et si je peux vous apporter de la joie,
c'est
je suis content.
Le grille-pain ou la trancheuse?
Non, c'est vous qui avez raison.
La trancheuse.
C'est la trancheuse à pain. Otto Rohwedder a créé la première machine à trancher le pain en 1928. Mm-hmm. En 1933, 80% du pain était vendu pré-tranché.
Mais oui.
On a rarement vu une success story aussi impressionnante.
C'est vrai, j'aurais dû y penser parce que c'est comme le pain Harris à oui. Châteauroux dont j'avais raconté l'histoire aussi. C'est les pains de mie très très blancs comme ça, c'est la grande.
Non, mais surtout le grille-pain existait déjà. Et donc, ça pouvait être que la trancheuse.
Ça, vous avez une
raison.
Révolution.
D'ailleurs, j'ai vu ça récemment, un beau grille-pain à l'ancienne, en argenterie, avec des manches en bois, très beau, un grille-pain de la fin du 19e.
Mais je crois que.
Bon, vous voyez, c'est ça, c'est que j'ai pas suffisamment réfléchi.
David nous en avait parlé dans une de ses rubriques, sur l'origine du grille-pain. Mais en tout cas, si vous voulez briller comme ça aux États-Unis et faire un petit peu local, vous dites, on n'a rien fait de mieux depuis la trancheuse à pain.
La trancheuse à pain, ok. 0-0.
0-0 pour l'instant, vous êtes dans.
On est dans la course.
Non, vous êtes surtout dans vos standards habituels. Stéphane, là pour vous. Si on prend pour argent comptant les propos de Pline l'Ancien. Quand Vercingétorix s'est ramené à Rome une fois vaincu, dans le cortège, il y avait une girafe. À cette époque, on appelait cet étrange animal un camélopard. Car on pensait qu'il était le fruit des amours entre un chameau et un léopard. Vrai ou faux?
Ça serait pas mal, ça.
Mais alors, d'où venait cette girafe? Parce qu'il rentrait de Gaulle, il est en passant par la Suisse, c'est quand même pas là qu'il a trouvé une girafe.
Ça, on est sûr qu'il y avait une girafe.
Oui, enfin, en tout cas, c'est ce qui a été rapporté à part Pline l'Ancien. On n'était pas là pour vérifier.
Non, mais écoutez, Stéphane, comment vous chopez une girafe en partant de...
Non,
de,
non
de,
c'est pas ça la question. La question, c'est est-ce qu'on
appelle
le camélopard?
Non, mais j'ai le droit de me la poser quand même ou pas
Non, vous posez-vous la question, comment on appelle le fruit des amours entre une sardine et un léopard?
Une sardine et un léopard.
Ouais, c'est un salopard.
Oui.
C'est pas ça la question.
Oui, c'est possible. Camélopard, j'aime bien l'idée d'un... C'est vrai que la tête de la girafe ressemble à un chameau, puisqu'elle rumine de la même façon.
C'est vrai. C'est
camélopard, vrai. Allez...
On part sur le camélopard.
Vendu le camélopard.
Ça fait rire. En tout cas, ça me fait rire.
Je vous le donne. Allez, on vérifie.
Vous avez gagné.
Exactement. Oui, c'était les Grecs qui le pensaient. Le nom scientifique de la girafe est d'ailleurs Camelopardalis en latin. Ben donc ouais. Ça vient de là.
Passionnant.
Est-ce que Clémentine va égaliser ou va-t-elle connaître le déshonneur de zéro bonne réponse aujourd'hui? On va le vérifier tout de suite. Vous vous souvenez de l'indice musical tout à l'heure? On parlait de quoi?
On parlait de fondue
savoyarde. Fondue savoyarde, voilà. Et fondue bourguignonne.
Exactement. C'est en 1948 que naît l'État d'Israël, Depardieu et la fondue bourguignonne. D'ailleurs, ce plat vient de France, de Suisse ou du Luxembourg?
Est-ce que la fondue bourguignonne est une adaptation française de la fondue à base de fromage, puisque c'est de la viande, la fondue bourguignonne?
Enfin, c'est pas tout à fait la même chose. Là, on parle de faire cuire de la viande dans de l'huile.
Oui, ben donc c'est pas pareil. Est-ce que simplement c'est les Français qui se sont dit tiens, c'est pas mal de faire fondre du fromage, mais nous Français, on va le faire avec de la viande? Ou est-ce que ça viendrait de ce point de vue-là de Suisse? Est-ce que ce sont les Luxembourgeois qui eux préfèrent la bidoche? Et la dernière option, c'est
la France. C'est un plat français simplement.
Moi, je verrais bien un plat français. Je veux dire, après tout, l'inventivité, la créativité française en matière de gastronomie est telle que elle fait feu de tout bois. Ah, les Suisses font fondre du fromage. Ben, nous faisons ça avec la bidoche. Allez, je veux dire que c'est français.
Et c'est tout à votre honneur, c'est français.
Vous avez
encore perdu.
C'est luxembourgeois, en fait, c'est ça?
Non, c'est suisse. C'est suisse.
Ouais. Ah, c'est étonnant. Donc, on peut manger de la fondue bourguignonne en Suisse.
En fait, c'est à Lausanne que tout commence en 1948. Gloire à George Eisenwein, qui a eu l'idée de cuire toutes sortes de viandes dans un mélange d'huile bouillante. Mm-hmm. Il s'est largement inspiré de la cuisine zigane. Le nom de bourguignonne vient de la viande charolaise qui vient en effet de Bourgogne.
Mmh. Bah c'est ça qui m'a, c'est avec ça vous m'avez induite en erreur. Oh, dites donc là.
C'est un beau zéro. C'est un beau zéro, mais avec panache.
Je saurais rebondir.
Qui a gagné le quiz?
Il me semble que c'est Stéphane Bern. Bravo Stéphane.
Merci. Le gars, il a le triomphe modeste.
Non, mais j'ai rien dit. C'est Jean-Luc qui l'a
gagné.
Merci Clémentine.
Europe 1. Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre continue avec Jean-Luc Lemoine, David Cassel-Lopez, Philippe Charlier, nos personnages du jour qui sont complètement incompris. Après le compositeur Georges Bizet, qui a vite déchanté suite à l'échec de son opéra Carmen, incompris par le public et la critique, je vous raconte l'écrivain Vladimir Nabokov et son roman Lolita, qui n'a pas été compris comme il se doit. Et vous Jean-Luc, vous allez nous raconter un footballeur incompris lui aussi.
Oui, Nicolas Anelka, l'incompris. Et vous allez vite comprendre pourquoi.
Pourquoi?
Bah, vous verrez.
Europe 1. Historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Lolita. Il a, sans le vouloir, fait entrer ce prénom en nom commun dans le dictionnaire, un mot qui n'a pas le sens qu'il aurait voulu lui donner. Lolita. Un des romans adaptés au cinéma, mais de façon quelque peu dénaturée. Je vous raconte maintenant un écrivain et cette œuvre en particulier qui fut et qui est aujourd'hui encore souvent complètement incomprise. Vladimir Nabokov. Nous sommes le 13 juin 1962, soir d'avant-première au cinéma du Love Theater sur Broadway au cœur de New York. Les badauds sont nombreux, les flashs crépitent pour immortaliser les acteurs et actrices qui descendent de leur véhicule. Le réalisateur, Stanley Kubrick, se présente goguenard, cigarette aux lèvres, et la foule s'agite à l'arrivée de Sue Lyon, la jeune comédienne incarnant le personnage principal qui donne au film son titre, qui brille en immenses lettres au-dessus de l'entrée, Lolita. L'affiche placardée sur les murs donne le ton. Des lunettes de soleil en forme de cœur laissent apparaître les yeux aguicheurs d'une jeune fille aux lèvres purpurines, sucetant une confiserie. Voilà des semaines que tout le monde parle d'un film annoncé comme sulfureux. L'histoire d'une relation entre une adolescente et un homme bien plus âgé. Une histoire adaptée d'un roman sorti 7 ans plus tôt qui a beaucoup fait parler de lui depuis. Ce roman, c'est Vladimir Nabokov qui l'a écrit. Mais le tapage autour du film, l'affiche suggestive et les modifications apportées à l'histoire d'un livre que beaucoup ne liront pas vont participer à construire l'une des plus grandes incompréhensions de la littérature. Le nom Lolita est passé dans le langage courant pour désigner, selon le petit Robert, une très jeune fille qui suscite le désir des adultes par l'image d'une féminité précoce. Le sens commun entérine donc le fantasme d'une jeune femme séduisante plutôt que le triste sort raconté dans le livre, celui d'une enfant victime de la concupiscence d'un adulte. Et en 1975, l'auteur devra encore s'en expliquer à la télévision sur le plateau de Bernard Pivot.
Eh bien, Lolita n'est pas une jeune fille perverse. C'est une pauvre enfant que l'on débauche et dont les sens ne s'éveillent jamais sous les caresses de de l'immonde Monsieur Humbert.
Humbert.
Oui, à qui elle demande une fois, est-ce qu'on va toujours vivre comme ça en faisant toutes sortes de choses dégoûtantes dans des lits d'auberge ?
Il y a méprise et Vladimir Nabokov ne le dira jamais assez. S'il est d'origine russe, Nabokov parle, comme vous venez de l'entendre, un français parfait, tout comme l'anglais qu'il a appris dès son enfance au sein d'une riche famille de Saint-Pétersbourg où il est né en 1899. Extrêmement bien éduqué, choyé, heureux, Vladimir doit tout abandonner quand la révolution bolchevique pousse une bonne partie de la noblesse russe à l'exil en 1917. Nabokov vit un temps en Angleterre, puis à Berlin, puis Paris, avant de s'installer finalement aux États-Unis en 1940. Il a d'abord publié des romans et poèmes en russe, mais écrit désormais en anglais et travaille comme professeur de littérature européenne à l'université, quand en 1954, il achève son roman Lolita. L'histoire est celle d'un quadragénaire nommé Humbert qui tombe éperdument d'amour et de désir pour la fille de sa logeuse. Elle s'appelle Dolores, surnommée Lolita. C'est une enfant, elle n'a que 12 ans, mais le désir coupable vire à l'obsession. Humbert épouse la mère pour rester auprès de la fille et devient son tuteur légal à la suite d'un accident. Il emmène Lolita parcourir le Midwest américain de motel en motel et cède à ses désirs jusqu'à ce qu'elle s'enfuit avec un autre. Un rival, attention, divulgage, que Humbert finira par tuer alors que Lolita, elle, a fait sa vie ailleurs et mourra en couche quelque temps plus tard. Tout est raconté à la première personne par Humbert lui-même dans des confessions en forme de plaidoirie écrites depuis la prison où il attend son jugement pour le meurtre. Ce texte est ensuite prétendument tombé dans les mains d'un psychiatre alors qu'Humbert meurt avant son procès. Le docteur fictif précise en avant-propos que l'homme est abject, mais que ce témoignage permet de parcourir les méandres d'un esprit malade. Tout est clair. Humbert est un personnage évidemment coupable d'assouvir ses fantasmes pédophiles aux dépens de celle qui les subit. Les scènes sexuelles sont seulement suggérées, mais le roman est d'emblée jugé pornographique par tous les grands éditeurs américains qui le refusent. C'est en France que l'ouvrage est d'abord publié, en anglais, en 1955, dans une scabreuse collection de littérature érotique qui n'aide pas à saisir les intentions de son auteur. Le livre sera interdit avec une vingtaine d'autres l'année suivante, avant d'être édité en français, puis finalement publié aux États-Unis en 1958. La censure n'a fait que servir l'ouvrage qui devient vite l'un des mieux vendus de l'histoire américaine. Et ce qui choque les lecteurs consciencieux, ce ne sont pas les charmes d'une adolescente, mais les turpitudes d'un homme. Lolita n'est pas aguicheuse ailleurs que dans les yeux et les désirs de Humbert. Elle est une banale jeune fille qui aime les magazines, les acteurs à la mode et les bonbons. Lolita est une victime. D'ailleurs, elle pleure chaque nuit quand elle croit son bourreau endormi. Et lui le sait, il admet être un monstre méprisable et brutal. Leur histoire est en réalité pitoyable, les étreintes négociées, l'érotisme à sens unique, muet. À la fin, Humbert reconnaît lui-même qu'il voit, je cite, « les restes de leur misérable idylle comme une légère pellicule de boue séchée recouvrant son enfance ». Il est conscient d'avoir brisé une vie et en appelle à être condamné non pas pour le meurtre qu'il a commis, mais pour ce qui est son seul véritable forfait, le viol d'une enfant. Le livre n'est pas tant l'histoire de Lolita que celle de Humbert et de son propre examen de conscience sur cet amour qu'il tient à vivre alors qu'il le sait ignoble. Mais des gens vont se méprendre. Le livre est long, complexe, la langue est riche, le style brillant et poétique, ce qui rend peut-être encore plus gênante pour le lecteur les élucubrations érotiques du personnage. Mais c'est surtout le film qui va donner une autre consistance à l'histoire. Nabokov est déjà célèbre quand sort le long-métrage de Kubrick en 1962. Il a participé au scénario, mais le réalisateur s'en est éloigné et propose sa version de l'histoire. Pour contrer la censure, l'actrice Sue Lyon n'a pas 12 ans mais 14, et en paraît clairement plus. De l'histoire de pédophilie, on passe presque à celle d'un amour rendu impossible par un trop grand écart d'âge. Surtout, quand le Humbert du livre est machiavélique, habile et sûr de lui, le Humbert du film est gauche, presque timide, fait servilement les ongles de pied à sa douce en papotant comme un adolescent. Il n'est plus un adulte qui a le pouvoir, mais un amoureux transi devenu le jouet de celle qui n'est plus une enfant mais une femme. Tout est renversé et la méprise va s'installer. Lolita n'appartient plus au roman qui l'a fait naître, mais à une pop culture qui n'a que faire du malentendu. Vladimir Nabokov est riche et célèbre jusqu'à sa mort en 1977, mais demeure aux yeux de beaucoup l'auteur d'un seul livre, faisant passer au second plan les 17 romans et les nombreux poèmes et nouvelles d'un écrivain que beaucoup considèrent comme un génie. Et comme l'a dit un autre grand auteur du XXe siècle, Romain Gary, l'incompréhension va toujours plus loin que le génie, et c'est toujours elle qui a le dernier mot.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Vladimir Nabokov, nous avons le plaisir d'accueillir une journaliste qui a raconté la méprise autour de Lolita dans un documentaire. Bonjour, Olivia Mokijewski.
Bonjour.
Olivia, vous avez réalisé le documentaire Lolita, méprise sur fantasme, dans lequel vous revenez sur l'incompréhension suscitée par le livre de Nabokov et son personnage, Lolita. Quel a été le constat aux origines de votre projet ?
Lolita, c'est peut-être l'un des romans les plus importants du XXe siècle et surtout l'un des plus incompris. Donc, ce qui était très étonnant, c'est que c'est tellement rentré dans la culture populaire aujourd'hui que vous voyez à la une de magazines, toujours cette référence à Lolita, qui est une jeune fille aguicheuse avec dans l'imaginaire collectif des lunettes en forme de cœur et une sucette à la bouche. Et voilà, et de se dire comment ce roman si célèbre a pu être si incompris et comment on est passé de l'histoire d'une petite fille violée de 12 ans, victime d'inceste et donc de viol par son beau-père, à cette, comme vous disiez, cette icône érotique. Et c'était le constat de se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que est-ce que les gens ont lu le livre, vraiment ? Est-ce qu'ils ont juste vu le film ? Et en fait, on se rend compte que c'est une succession de malentendus qui est arrivée à cette... On est arrivé à cette méprise incroyable, en fait, et en contresens total du livre.
Je parlais du film de Kubrick, qui est inscrit dans l'imaginaire collectif, donc non pas l'image d'une enfant abusée par un pédocriminel, mais celle d'une icône érotique de jeune fille aguicheuse, comme vous le rappelez. Nabokov ne s'est pas exprimé publiquement à propos de ce film, mais vous expliquez dans le documentaire qu'il n'en pensait pas moins. La question qui se pose, c'est pourquoi n'a-t-il rien dit ?
Parce qu'il touchait des droits d'auteur sur le film. Il a gagné beaucoup d'argent grâce à ce film. Et alors, il y avait aussi un pacte un peu tacite. C'est vrai qu'il avait participé au scénario. Il avait écrit une version très longue d'un film qui allait faire presque 6 heures. Et finalement, Kubrick a tout mis à la poubelle quasi et a écrit son histoire. Il n'allait pas non plus complètement désavouer Kubrick. Il s'en amusait. Il faisait pas non plus des éloges incroyables, mais il a rien dit par intérêt un peu commercial aussi pour servir. Il était très content quand même qu'il y ait une adaptation de son livre. Mais il a gagné de l'argent aussi grâce à ce livre-là.
Parce que c'est pas le seul qui a été dans ce cas-là. Stephen King avec Shining avait détesté le film, il l'avait dit, pourtant il a touché les droits d'auteur quand même.
Oui.
Donc ça s'est passé aussi.
Mais parce qu'en fait, Nabokov est un personnage assez complexe et assez trouble. C'était un grand joueur d'échecs et il a toujours un peu joué cette partie d'échecs avec ses lecteurs. Il est lui-même un peu à l'origine aussi de ce malentendu dans le style narratif qu'il a choisi. Donc en fait, on n'a jamais su vraiment si... Alors, il a essayé de le dire, en effet, chez Pivot, de dire que c'était un contresens, mais il ne l'a pas dit si souvent que ça non plus. Donc, on se demande aussi s'il n'y avait pas quelque chose d'un tout petit peu intentionnel qui lui a échappé à un moment donné, mais intentionnel de noyer le lecteur derrière cette littérature très belle et très complexe.
Et certains posent la question de savoir si dans le personnage d'Imbert, il y a un peu de Nabokov, si les fantasmes déviants du personnage sont ceux de son auteur. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Oui, c'est comme quand Flaubert disait « Madame Bovary, c'est moi ». Est-ce que lui, Imbert, c'est lui ? Alors, il y a certaines personnes qui pensent que peut-être qu'Imbert est un double de l'auteur et qu'en fait, c'était ses pulsions un peu refoulées. Mais l'explication peut-être la plus logique, c'est que le personnage d'une jeune fille comme ça qui perd quelque chose de son enfance est assez récurrent dans l'œuvre de Nabokov. C'est pas la première fois qu'il parle d'une jeune fille. Et en fait, ça ferait peut-être sans doute écho à son enfance qui a été, elle, idyllique et qui a été brisée par la Révolution russe. Et ensuite, il a vécu une vie extrêmement pauvre avec sa famille. Et donc, cette nostalgie de l'enfance idyllique mais brisée à un moment donné est peut-être à l'origine de cette obsession de la jeune fille qui revient. Plus que le fait que ce soit un pédophile refoulé et d'ailleurs un collectionneur de papillons. Donc, tout le monde voyait l'analogie avec le papillon et la nymphette. Mais a priori, non, c'était pas un pervers refoulé, mais c'était plus lié à cette enfance brisée qu'il a eue.
L'incompréhension suscitée par Lolita résulte de plusieurs méprises, notamment celle-ci. Si, malgré les mises en garde de l'auteur, on aperçut la jeune fille comme une séductrice. Selon vous, c'est au fond le principe narratif, vous le disiez à l'instant, qui a peut-être induit le lecteur en erreur. Et parce que justement, c'est raconté à la première personne.
Voilà, il utilise la première personne, donc vous êtes tout d'un coup dans la tête d'un pervers et d'un pédophile, et le narrateur se retrouve à peu près complice d'un être monstrueux. Et comme c'est extrêmement bien écrit, vous êtes en train à la fois d'avoir du plaisir dans l'écriture et de savourer une écriture magnifique, et en même temps, donc du coup, vous ne vomissez pas ce que la morale devrait vous conduire à faire. Donc évidemment, quand vous êtes dans la tête d'un pédophile, lui, le pédophile, vous raconte l'image de Lolita telle qu'il la voit. Mais Lolita n'existe pas. C'est Dolores Hayes, une petite fille banale de 12 ans qui n'a absolument rien de sexy. Mais évidemment, sa folie et son désir obsessionnel vous la fait montrer d'une manière extrêmement érotisée. Mais ça n'est pas la réalité. C'est la réalité de quelqu'un qui est malade. Voilà.
L'autre sujet d'incompréhension, c'est que ça a été publié la première fois en France, par un éditeur d'ouvrages pornographiques.
Alors ça, donc, il ne le savait pas. En plus,
Nabokov... Il ne le savait pas.
Non, il ne le savait pas. Il l'a découvert après, c'est-à-dire que comme personne ne voulait le publier, il était très content finalement que Olympia Press, qui était cette maison d'édition en France, accepte de le publier. Et il s'est rendu compte après que c'était en effet un éditeur de livres pornographiques, notamment pour les GI américains. Et donc, il s'est senti assez piégé, dupé par la suite. Mais évidemment, le livre... D'ailleurs, l'éditeur a cru que c'était une apologie de la pédophilie. Il était très content de publier ça en disant « c'est très bien, je vais faire scandale et c'est mon fonds de commerce, donc ça marche très bien ». Voilà, donc c'est en effet le deuxième grand malentendu qui a participé à la méprise.
Jean-Luc.
Et 35 ans après le film de Kubrick, très célèbre, il y a eu une nouvelle version de Lolita qui est sortie en 97 et qui a fini d'entériner l'image de la jeune fille aguicheuse que l'on voit donc sur la fiche de Kubrick dont vous avez parlé. Alors, d'après vous, est-ce que ces films ont participé à banaliser la culture du viol? Est-ce qu'ils ont alimenté l'attirance pathologique pour les adolescentes?
Oui, dans le film que vous mentionnez, c'est avec Jeremy Irons, un film d'Adrian Lyne. Donc vous avez un Jeremy Irons qui est extrêmement beau, avec une jeune fille qui finalement ne fait que le faire tourner en bourrique, le séduit complètement. Donc tout le côté pédophile incestueux est complètement gommé, comme dans le film de Kubrick. Et on voit simplement l'histoire d'une jeune fille sexuellement précoce qui essaye à tout prix de charmer un homme d'âge mûr qui perd la raison à cause de cet amour et de ce désir. Donc évidemment, Lolita est un livre très long, très complexe, beaucoup de gens n'ont vu que le film et gardent ça en tête et gardent cette image, évidemment, de cette Lolita aguicheuse.
À travers ce livre, Nabokov pose en fait une question essentielle, celle du consentement. Des victimes de violences sexuelles convoquent d'ailleurs la figure de Lolita aujourd'hui. On écoute d'ailleurs l'écrivaine Vanessa Springora à votre micro.
Moi, je pense qu'il faut le relire éternellement, Lolita, ça reste indépassable. Aucun auteur jusque-là n'a réussi à nous plonger dans la noirceur de l'âme d'un personnage pédophile comme il l'a fait lui. Moi, je me suis sentie prise en compte grâce à ce livre. C'est important de le dire.
De ce point de vue-là, Olivier Mogilevski, c'est un livre très actuel, on devrait le lire éternellement, comme le dit Vanessa Springora.
Oui, je pense que aujourd'hui, en fait, à l'heure MeToo, c'est extrêmement difficile de ne pas entendre tout ce qu'il y a dans le texte, parce que le mot viol est prononcé, parce qu'on voit clairement, on ne peut pas dire en lisant le livre que c'est une apologie de la pédophilie. Évidemment, c'est un livre extrêmement précurseur qui a dénoncé tout ça en avance. C'est peut-être aujourd'hui, avec le regard actuel, vu le contexte et la dénonciation de crimes sexuels, notamment envers des enfants, c'est peut-être l'occasion de mettre fin, en effet, à ce malentendu. Et Lolita va peut-être être lue correctement aujourd'hui.
Ça serait bien. Oui. Merci beaucoup, Olivia Mankiewicz-Jewski, d'être revenue avec nous sur le chef-d'œuvre incompris, finalement, de Vladimir Nabokov. Votre film Lolita méprise sur un fantasme, disponible en VOD sur la plateforme Univers Ciné.
Merci.
Merci beaucoup.
Europe 1, historiquement vôtre.
Stéphane Bern.
Aujourd'hui dans Historiquement Vôtre, avec Jean-Luc Lemoine, David Castel-Lopez et Philippe Charlier, on réunit des personnages complètement incompris. Après Georges Bizet et Vladimir Nabokov, vous nous racontez, Jean-Luc, le footballeur incompris Nicolas Anelka.
Le mystère Nicolas Anelka se pose encore aujourd'hui. Vrai bad boy, gamin mal entouré, génie incompris, monstre d'ego dévorant les gamins des centres de formation. Pour tenter de mieux le comprendre, eh bien écoutez, je vous propose de revenir sur quelques-uns des plus grands moments de sa carrière, tout en consultant un livre très utile, Le Petit Nico Illustré. Un livre très pratique qui nous permettra de décoder et de percer les mystères de cet éternel incompris.
Eh bien moi je me comprends, moi, c'est le principal.
Nicolas Anelka voit le jour en 1979 et grandit à Trappes. À 16 ans, il rejoint le groupe professionnel du Paris Saint-Germain. Tout le monde voit en lui la future pépite du football français, à part le Paris Saint-Germain. Le club tardant à lui faire signer son premier contrat pro, il part donc négocier en cachette avec Arsenal. Oui, on peut dire qu'à l'époque, ils avaient déjà un sacré flair à Paris. Les joueurs étant tenus de signer leur premier contrat pro avec leur club formateur, l'affaire fait alors grand bruit. Le PSG réussit malgré tout à arracher environ 1 million d'euros, avant de le racheter 3 ans plus tard pour la modique somme de 34 millions. Ah oui. Oui, on peut dire qu'à l'époque, ils avaient déjà un sacré sens des affaires à Paris.
Une vraie réussite, j'ai dépensé sans compter.
Anelka quitte la France avec une image de sale gosse qui lui collera à la peau. Et partout où il passe, il laisse rarement indifférent. Le tiède, il ne connaît pas. C'est soit tu l'aimes, soit tu le détestes. De mémoire de boomer, on n'avait pas vu ça depuis l'invention de la coriandre. En 1999, il débarque au Real Madrid et devient le transfert le plus cher du club espagnol, une période qu'il appelle lui-même le début d'un cauchemar. Le joueur supporte mal la médiatisation. Au lieu d'enrhumer les défenseurs de la Liga, il met des vents à la presse espagnole qui le prend en grippe et le piège en lui proposant de prendre la pause en jouant au jeu vidéo FIFA. Le lendemain, le journal Marca sortira la photo avec le titre « Nicolas Anelka marque son premier but ». Relégué sur le banc des remplaçants, moqué par la presse, il joue le tout pour le tout et décide de faire du boudin.
Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin.
Oui,
voilà
parce que même si le footballeur n'est pas toujours au niveau, son ego lui l'est. Devant le manque de dialogue affiché par sa direction, il refuse alors de s'entraîner avec ses coéquipiers. Il déclare « Je préfère aller vendre des téléviseurs à Darty ». Ce qui, dans le petit Nico illustré, signifie « Soit tu me fais jouer, soit je me casse ». Après 45 jours de suspension et 350 000 euros d'amende, il présente ses excuses et finit par reprendre le chemin de l'entraînement. Quelques semaines plus tard, il se réconcilie avec une partie du public madrilène en étant un des grands artisans de la victoire du Real en Coupe d'Europe. Et ça sera comme ça dans pratiquement tous ses clubs. Adoré par les supporters, puis détesté, puis réadoré, puis redétesté. Ce qui explique sa bougeotte durant sa carrière avec 12 clubs différents et 7 pays visités. De l'Angleterre à l'Espagne en passant par la Turquie, la Chine ou l'Inde. Oui, son passeport c'est un millefeuille. Parmi ses nombreuses qualités, Nicolas Anelka peut aussi se montrer légèrement rancunier. Non sélectionné pour le Mondial 2002 par Jacques Santini, il refuse quelques semaines plus tard de répondre à une convocation en équipe de France. Il déclare à la presse « Il faudra qu'il s'agenouille devant moi, s'excuse d'abord et après je réfléchirai ». Déclaration qu'on peut traduire sans utiliser le petit Nico illustré par « Va te faire cuire le cul, Jaco ». Oui, parfois c'est pas si compliqué que ça de comprendre le Anelka. En 2010, à 30 ans, et après avoir été boudé 2 fois par les sélectionnaires, il est enfin appelé en équipe de France pour jouer une Coupe du Monde. Celui qui fait appel à lui, c'est Raymond Domenech. Après un premier 0-0 assez décevant face à l'Uruguay, les Bleus se présentent face au Mexique. Raymond Domenech décide de sortir Nico après une mauvaise première mi-temps. Et Nico, il aime pas jouer le rôle de fusible. Et qu'est-ce qu'il fait Nico quand il aime pas? Bah il le dit, à sa façon. Et là, il faut encore ressortir le petit Nico illustré. Quand il lance ce jour-là à Raymond Domenech, « Tu n'as qu'à la faire, ton équipe de merde. » Il fallait comprendre, « Je vous prie d'intégrer que moi et mon ego n'apprécions pas d'être désignés seuls fautifs des dysfonctionnements de l'équipe. Cela nous blesse au plus haut point et nous pousse à penser que vous manquez cruellement de discernement. » Tout simplement. Voilà, c'est pas très compliqué. Le problème, c'est que pendant ce temps, certains journalistes de l'équipe, eux, qui tentent de traduire les propos de Nicolas Anelka avec le petit racoleur illustré, décident de mettre dans sa bouche, et en une de leurs journaux, les mots suivants « Va te faire enculer, sale fils de pute ». Stéphane, excusez ma vulgarité.
Moi, je suis effondré là.
Mais je me dois de relater avec précision les mots exacts qui ont été publiés et ont étrangement permis un accroissement soudain des ventes du journal. Dès le lendemain, l'altercation Anelka Domenech devient une affaire d'État. Le joueur est renvoyé chez lui avec l'interdiction d'écouter Shakira chanter « Waka Waka ». Après son départ, les joueurs de l'équipe de France décident de rendre un dernier hommage à leur coéquipier en reproduisant un de ses gestes préférés, refuser de s'entraîner et faire du boudin.
Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin.
Débute alors l'un des épisodes les plus glorieux du foot français avec la célèbre mutinie de Nice-Na. Les joueurs désavouent leur sélectionneur et la FFF en refusant de descendre du bus. Et Robert Duverne, préparateur physique de l'équipe de France, invente une nouvelle discipline sportive, le lancer de chronomètre. Beaucoup n'ont pas pardonné à Anelka. Alors que dans le fond, il n'y avait rien à pardonner. 8 ans après les faits, Raymond Domenech a lui-même confirmé dans un documentaire que les propos rapportés à la une du journal L'Équipe n'ont jamais été prononcés dans le vestiaire ce jour-là. Ouais, on est d'accord, il aurait peut-être pu le faire avant, hein, pour éteindre l'incendie. Mais il est comme ça Raymond, trop pudique. Anelka, homme entier réservé, joueur surdoué à l'ego assumé, donnant parfois l'impression de se voir plus important que les clubs dans lesquels il jouait, restera incompris, car il était sans doute trop en avance. Il nous annonçait une nouvelle étape dans le football où les joueurs semblent avoir pris le pouvoir dans leur rapport avec les dirigeants, quitte à donner un côté individuel à ce sport collectif.
Merci beaucoup Jean-Luc.
Mais il était quand même très fort au foot.
Ah, c'est un super joueur, c'est ouais. un super joueur. Mais c'était le plus doué. On disait même qu'il était plus doué que Thierry Henry, qui a fait une très grande carrière.
Mais il travaillait pas assez, il avait des sauts d'humeur.
Je crois qu'il travaillait, mais il avait un ego assez fort, on va dire.
Europe 1, historiquement vôtre.
Oui, bah, il est l'heure de dire au revoir à nos personnages complètement incompris pour retrouver deux garçons grâce à qui on comprend tout, même quand il s'agit de sujets un peu datés. David Cassé-Lopez, vous nous racontez les origines du café.
Oui, exactement.
C'est pas d'hier.
La meilleure drogue qui soit.
Mais avant ça, comme chaque jour, mes aïeux qu'à l'époque. Et aujourd'hui avec vous, Philippe Charlier, notre médecin légiste de l'histoire. Ça s'est passé dans le passé, donc vous nous parlez de lunettes, n'est-ce pas, Philippe?
Et oui, c'est une fourche construite de manière à pouvoir se tenir sur le nez d'un homme, comme un cavalier se tient sur la croupe d'un cheval ou d'un oiseau sur un juchoir. Eh bien, voici des mots bien étranges pour qualifier un objet du quotidien que nous connaissons tous. Vous l'avez reconnu,
mais ce sont les lunettes.
Exactement. Écoutez quand même la fin de la citation que je trouve particulièrement belle. Et de chaque côté de la fourche, de façon à correspondre aux yeux, s'arrondissent deux cercles ovales de métal qui enserrent deux amandes de verre épaisses comme des fonds de chope. Eh bien, c'est par ces mots que le génial Umberto Eco décrit dans Le Nom de la Rose la paire de lunettes portées par le moine franciscain Guillaume de Baskerville lorsque l'envie lui prend de lire. Alors, est-ce que les lunettes, c'est vieux comme le monde? Eh bien non, c'est finalement assez récent vis-à-vis de l'échelle de l'humanité. Alors, comme mon sémillant comparse David Castello-Lopez, j'ai décidé de répondre aujourd'hui à la question suivante. Depuis quand l'homme porte-t-il cet étrange appendice de métal et de verre qui améliore considérablement sa vision? Est-ce que vous avez une idée de l'ancienneté des lunettes, chers amis?
Écoutez... Visiblement au Moyen-Âge, déjà.
Le Nom de la Rose, quoi, c'est
le Moyen-Âge.
11e siècle,
c'est oui. ça? On est un petit peu après, oui. Eh bien, la légende rapporte que les lunettes sont bien plus anciennes que ça, puisque l'empereur Néron, on est donc au 1er siècle après Jésus-Christ, utilisait déjà une émeraude rapprochée d'un de ses yeux pour mieux distinguer les mouvements des gladiateurs dans les arènes.
Mais c'est une loupe.
C'est une sorte de loupe.
C'est une jumelle, en fait.
Une jumelle.
Oui, mais beaucoup plus classe. Une émeraude, c'est quand même
pas mal. Tout le monde a pas ça.
Oui, c'est ça.
Il faut imaginer la grosse bague qui rapproche de ses yeux.
Voilà. C'est remboursé par la Sécu, l'émeraude.
Ça peut se tenter.
C'est le 1 euro.
Malgré tout, c'est aux Arabes qu'on doit, par l'amélioration des techniques de taille des pierres dures, la mise au point de ce qu'on appellerait à l'époque des pierres de lecture. Directement placées sur les livres ou sur les manuscrits, ces cristaux à facettes permettaient de grossir les caractères par un effet loupe, comme vous l'avez dit, et elles autorisaient la lecture à ceux qui étaient touchés par la presbytie, ou encore dans les lieux faiblement illuminés, comme les tentes ou encore les bibliothèques. Et là, au XIIIe siècle, c'est la Révolution. Le passage à une forme posée non plus sur l'objet regardé, mais sur l'œil qui regarde. Cette métamorphose, ce changement de paradigme, ce Big Bang de l'optique, est dû, selon la tradition, à un Italien, Salvino degli Armati. Son idée n'est pas venue de nulle part, puisque c'est un lecteur de l'œuvre du moine franciscain, toujours les franciscains, Roger Bacon. Celui-ci décrit la façon de polir les pierres en forme de lentille pour agrandir les objets.
Et à quoi ressemblent alors ces proto-lunettes, les premiers modèles?
Eh bien, elles ne sont pas comme vous en écailles, fines et très élégantes. Ce sont des montures qui sont en bois, avec des verres en cristal de roche, voire en pierre semi-précieuse.
Ah, quand même.
Et oui, quelque chose qui vous sierait fort bien, mon cher Stéphane.
Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas ça aujourd'hui.
Il faudrait réhabiliter, car ce sont les Vénitiens, dès le début du XIVe siècle, qui vont réussir à produire, probablement à Murano, des verres d'une pureté telle qu'aucun défaut, je veux dire par là, il n'y a pas de bulles, il n'y a pas de poussière, qui ne vient gêner la vision. Et pour la possession de ce marché d'avenir, eh bien les corporations de verriers et de cristalliers se dansent dans une lutte sans merci. La production n'est pas encore industrielle, mais ces bésicles, c'est-à-dire des lunettes qui n'ont pas de branches, qui sont simplement pincées sur l'arête du nez, diffusent dans les lieux de savoir et de pouvoir, surtout les monastères et les palais. Tout le monde s'en fait faire. Et les artistes médiévaux s'emparent de cet objet nouveau et l'utilisent comme un marqueur intellectuel dans leurs peintures qui figurent les saints ou les prophètes. Impossible à l'époque, par exemple, de figurer un lettré tel Stefano Bernus de Luxembourg sans sa paire de lunettes.
Oui, bien sûr. Et ça tient comment alors si ça pince simplement le nez, ces choses-là?
Eh bien malheureusement, vous l'avez compris, c'est pas très pratique. Les bésicles ont une fâcheuse tendance à tomber. Alors on utilise parfois des rubans ou des ficelles pour les fixer à l'arrière du crâne ou au niveau du pavillon de l'oreille. Alors au début, c'était plutôt efficace pour la presbytie. et les verres de lunettes sont taillés de façon concave dès le 15e siècle pour corriger maintenant les myopes. Ils auront attendu 200 ans de plus que les autres. Les siècles suivants vont voir une nette explosion à la fois dans l'ingénierie de la correction des défauts de vision, mais aussi dans le type technique de la monture. On commence à faire presque du design, avec des binocles, avec du monocle, avec des lorgnons, avec des pince-nez. Et sachez-vous que la dernière innovation viendra cette fois-ci du Royaume-Uni. C'est l'opticien James S. Cook qui mettra au point les verres teintés. En fait, il pensait améliorer la vue avec des verres bleus ou bruns, mais en fait, il venait sans le savoir de mettre au point les premières lunettes de soleil. Comme quoi, quand les Anglais font des innovations, c'est toujours par accident.
Mes aïeux, quelle époque. Merci beaucoup, Philippe.
Merci.
Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
Les origines.
Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Philippe Charlier, surtout avec vous, David Castillo-Lopez. Vous nous racontez les origines du café.
Oui. Vous avez déjà vu un caféier ?
Oui.
C'est une plante assez sympa. Hein. C'est une plante sur laquelle poussent de jolies petites baies rouges qui contiennent une substance qui est plus sympa encore que l'arbre lui-même et qu'on appelle la caféine. La caféine, au départ, c'est un poison qui permet au caféier de tuer les petits insectes, en tout cas de les endommager, les petits insectes qui essayent de le manger. Mais, comme nous, on est beaucoup, beaucoup plus gros que les insectes, eh bien cette caféine, elle ne nous tue pas du tout. Et on peut même dire qu'elle nous fait bien kiffer. Dans le monde, chaque année, chaque être humain consomme en moyenne 1,3 kg de café. Truc de ouf. Alors, ceux qui en boivent le plus, ce sont les Scandinaves, en particulier les Finlandais. Plus de 12 kilos par an. Et bien sûr, plus on boit de café, plus on a besoin d'en boire parce que le café, c'est une drogue ouais. Et une drogue addictive comme la cocaïne, l'opium ou le bon crack que l'on bédave en famille. Mais le truc, c'est que contrairement aux drogues que je viens de citer, la caféine, c'est quand même très très bien parce qu'elle a plein d'effets bénéfiques prouvés. Dans certains cas, elle permet de lutter contre les maux de tête, elle permet d'améliorer la capacité de concentration, d'être moins fatigué. C'est, si vous voulez, une drogue sympa, peut-être la plus sympa des drogues. Mais alors, d'où vient-elle ? Bon, le café, c'est une plante originaire de l'Est de l'Afrique. Ce sont les Arabes qui l'ont découverte et qui ont commencé à en faire la boisson que l'on connaît. Quand ça ? Eh bien, vers la fin du Moyen-Âge. Et le succès, il a été immédiat, notamment comme alternative à l'alcool, breuvage haram entre tous. Or, pendant ce temps-là, en Europe, les gens, ils tisaient comme des porcs. Et pas seulement les adultes, les enfants aussi. En grande partie parce que l'alcool donnait moins de maladies que l'eau, qui était bien davantage susceptible d'être contaminée. Et, selon un chercheur américain qui s'appelle Michael Pollan, eh bien, cette consommation de café dans le monde arabe, pendant que nous, on tisait, pourrait expliquer en partie la supériorité des scientifiques arabes à cette époque-là. Le café, il est arrivé en Europe assez tard, au XVIIe siècle, en passant par l'Empire ottoman, en même temps d'ailleurs à peu près que le cacao et le thé, qui sont toutes des substances qui contiennent à des degrés divers de la caféine. Et entre le XVIIe siècle et le XIXe siècle, le café est passé d'un truc de luxe à un truc méga grand public. Or, qu'est-ce qui s'est passé par ailleurs entre le XVIIe siècle et le XIXe siècle ? Eh bien, il y a eu une formidable accélération de l'histoire dans le monde occidental. Il y a les philosophes des Lumières, la Révolution française, la Révolution industrielle en Angleterre. Et je le répète, c'est une époque où tout le monde commence progressivement à boire du café, ou en tout cas à consommer de la caféine. Mais alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien de causalité entre la consommation de café et l'accélération de l'histoire que je viens de citer ? Eh bien, toujours, selon ce monsieur Michael Pollan, c'est fort possible. Le café, c'est une drogue qui permet, on l'a dit, de mieux se concentrer, de mieux réfléchir et de mieux dormir, de moins dormir. C'est une drogue, donc, du travail et de la productivité. Contrairement, par exemple, au shit, qui est une drogue excellente pour ne rien foutre de ses journées. Le shit, ça soulage peut-être l'arthrose ou je sais pas quoi, mais c'est pas la drogue du peps et du triomphe de la volonté. Voltaire, on disait qu'il buvait 72 tasses de café par jour. C'est probablement exagéré, mais en tout cas, il en buvait beaucoup. Et comme par hasard, il a révolutionné la pensée occidentale. Comme par hasard, Diderot, Newton, c'était des gros fans de café. Et comme par hasard, ils ont révolutionné la pensée occidentale. Et puis, quand il s'est agi de faire bien travailler les ouvriers dans les usines, au moment de la révolution industrielle, avec des allongements massifs de la durée de travail, eh bien, qu'est-ce qu'on leur a donné ? Du café. Alors on pourrait se dire avec tout ça que le café c'est une drogue qui a aidé la vérité humaniste à triompher, puis le monde capitaliste à s'épanouir. Mais si on réfléchit, c'est peut-être le contraire. Est-ce que ce serait pas plutôt le café qui nous a utilisé, nous, les humains, pour prospérer? Et oui, quand on a découvert le café, il y avait quelques plants pourris en Afrique de l'Est. Aujourd'hui, on le fait pousser dans 70 pays. C'est une belle réussite de la part du café. Il y a une dernière petite question quand même très légitime, c'est est-ce que le café, ça peut quand même être un petit peu mauvais pour la santé, parce que c'est quand même une drogue? Eh bien, je suis heureux de pouvoir vous répondre que si vous n'avez pas de problème cardiaque et que si vous vous limitez à 400 mg de caféine par jour, c'est-à-dire à peu près ce qu'il y a dans un litre de café filtre genre américain, il n'y a aucun problème. Vous pouvez y aller. Donc allez-y.
Mais en capsule, c'est combien?
Capsule, c'est espresso. Je crois que ça doit être 4 expressos, 4 ou 5 expressos.
On dit que c'est moins mauvais de boire des expressos qu'un litre de café filtre.
Peut-être, ça, je sais pas, peut-être qu'on peut se tourner vers vous avec vos connaissances.
Le meilleur café, c'est le café italien ou le café grec, de toute façon. Et là, on peut en enquiller 4 ou 5 sans aucun problème. Surtout à Sant'Eustachio, à Rome, c'est le meilleur café du monde dans ce café-là.
Ah bon, il est quand même simple, Philippe Chardet. Tu sais, ses lunettes, c'est des émeraudes, et puis ce café, c'est en Italie. Voilà. Ça va, tout va bien.
Merci, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr. Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Historiquement vôtre, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec 3 nouveaux personnages, 3 rois du bistouri. Le barbier chirurgien, oui, Ambroise Paré, qui a opéré aussi bien les soldats que les rois, puis Charles-François Tassy, qui lui a opéré le roi Soleil et en a retiré gloire et fortune, et a retiré surtout une fistule anale au souverain. Et vous, Jean-Luc, vous nous raconterez un roi du bistouri autoproclamé.
Oui, et tout est dans le autoproclamé, car Michel Mort, le chirurgien esthétique dont je vais vous parler, n'a rien d'un roi. Ou peut-être si, le roi des escrocs.
Bon, vous nous raconterez tout ça demain. À demain, les amis.
Et à ce soir aussi, Stéphane.
Ah bon, on se voit ce soir, Jean-Luc?
Ah ben moi, je vais vous voir, en tout cas, oui. Dans Secret d'Histoire, 21h10, sur France 3, vous allez nous parler du masque de fer.
Ah oui, c'est vrai. Et vous savez qui c'est?
Non, mais j'ai hâte de le découvrir.
Ah oui, je comprends. Alors, bonne soirée à tous. Vous allez le savoir. À suivre sur Europe 1, c'est Punchline, avec Laurence Ferrari.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.